Bien, mesdames, messieurs, chers collègues, il est 18h30, si vous voulez bien regagner vos places, nous allons commencer cette séance. Je vais procéder à l'appel. Madame Marie-Andrée Altier. Madame Laetitia Arnaud. Monsieur Christian Ozas. Monsieur Pierre Avon. Monsieur Jean-Marie Blanc. Madame Marie-Claude Bompard. Madame Sylvie Bonifaci. Madame Françoise Bouclet. Madame Marie Calero. Madame Laure David-Giton. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Hervé Flaugère. Monsieur Juan Garcia. Monsieur Jean-Louis Grappin. Monsieur Jean-Marc Garinos. Madame Myriam Gutiérrez. Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Jean-Pierre Lambertin. Monsieur François Lucas. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Monsieur Denis Mossy. Monsieur Christian Perron. Monsieur Joël Racamier. Monsieur Claude Raoux. Madame Cathy Ricard. Présent. Madame Bruna Romanini est excusée et a donné pouvoir à Madame Marie-Andrée Altier. Monsieur Benoît Sanchez. Présent. Madame Anne-Marie Souveton est excusée et a donné pouvoir à Monsieur Hervé Flaugère. Madame Virginie Vicente. Monsieur André Vigli. Merci. La première question concerne donc le secrétariat de séance. Il est proposé, conformément au Code général des collectivités territoriales, la candidature de Madame Laurence Desfonds-Fargeon, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 2. Il s'agit de l'approbation du procès-verbal du 21 juillet 2020. Vous avez tous eu connaissance de ce procès-verbal. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Aussi adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 3, il s'agit de l'adoption du règlement intérieur du Conseil communautaire. Vous le savez, dans un délai de 6 mois suivant son installation, le Conseil communautaire doit établir son règlement intérieur, formalité imposée par la loi. Le contenu du règlement intérieur est fixé librement par le Conseil communautaire, qui peut se doter de ses propres règles visant à faciliter son fonctionnement et à améliorer la qualité de ses travaux. Considérant que doivent être obligatoirement fixées dans le règlement les conditions d'organisation du débat d'orientation budgétaire, les règles de présentation et d'examen ainsi que la fréquence des questions orales, les conditions de consultation par les conseillers communautaires des projets de contrat ou de marché en application du CGCT, les modalités d'expression des conseillers communautaires ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité communautaire. C'est une disposition qui vient de rentrer dans le cadre de la loi Engagement et proximité de décembre 2019. Est-ce que vous avez des questions concernant ce règlement intérieur? S'il n'y a pas de questions, la grosse modification, c'est l'envoi dématérialisé et mettre à disposition l'ordre du jour à l'ensemble des conseillers municipaux de l'ensemble du territoire intercommunal. Chaque conseiller municipal de notre territoire doit pouvoir avoir accès à l'ordre du jour et aux notes de synthèse du conseil communautaire. C'est la nouveauté, c'est la loi Engagement et proximité qui vient de l'inscrire. Je soumets aux voix. Monsieur Avon.
Oui.
Pardon. Allez-y.
Bah, s'il vous plaît, je ne savais pas qu'il fallait, si on avait une. Si on voulait dire quelque chose, qu'il fallait le signaler avant, donc c'est trop tard pour signaler.
Non. En fait. La loi, dans le cadre, lorsqu'il y a une élection municipale, il est clair qu'il y a une majorité, une opposition. Dans le cadre du Conseil communautaire, la loi Engagement et proximité vient préciser que les élus qui siègent au Conseil communautaire ne sont pas d'office dans l'opposition, et il y a une majorité et une opposition. Du coup, la loi précise que les modalités d'expression, les conseillers communautaires doivent déclarer s'ils appartiennent à l'opposition ou pas. Et c'est une disposition du règlement intérieur qui est précisée par la loi. Du coup, tout au long du mandat, chacun peut déclarer auprès du président de la communauté de communes s'il appartient à la majorité, à l'opposition. Voilà.
Non, moi, c'était juste deux points sur les articles.
Allez-y.
Donc, c'est à l'article numéro 6, l'accès au public est autorisé dans la limite des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité.
Alors, j'ai pas entendu.
Ah, excusez-moi.
L'article ?
L'accès au public est autorisé dans les limites des places disponibles et dans le respect des règles de sécurité. Si on aurait pu rajouter des règles sanitaires aussi.
Oui, mais dans les règles de sécurité, je pense que la question sanitaire est précisée. D'autant plus que le règlement ne vient pas modifier la loi. La loi est souveraine sur le règlement. Et du coup, quand un arrêté préfectoral impose des effectifs de rassemblement, il est souverain sur le règlement intérieur du conseil communautaire.
OK. Et aussi sur l'article 20, sur le fonctionnement des commissions.
Oui.
Est-ce qu'il y a un quota pour les... Parce qu'à la première réunion, normalement, il y a l'élection du vice-président. Donc, nous, on a eu une réunion, on n'était pas assez pour valider. Donc, y a-t-il un quota pour un quorum, quoi.
Ah, est-ce qu'il y a un quorum dans les commissions? Ça, c'est la question. Pour la première, c'est-à-dire sur l'élection du vice-président de la commission, c'est ça?
Oui.
En l'occurrence, votre commission
Développement du territoire.
Il n'y avait pas assez d'effectifs?
Non.
Du coup, elle a dû être ajournée pour reproposer.
Voilà, donc, y a-t-il un règlement?
Du coup, ça va être fait, sûrement. Mais là, la règle du quorum s'applique même aux commissions.
D'accord.
Voilà. C'est juste. Il faut la reconvoquer. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le règlement intérieur du Conseil communautaire? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? La Ligue du Sud? Qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité, je vous remercie. La question numéro 4, il s'agit du pacte de gouvernance, toujours la loi de décembre 2019, engagement et proximité. Cette loi est venue préciser que les collectivités, les EPCI, peuvent élaborer un pacte de gouvernance. Pour cela, elles doivent acter par délibération de l'Assemblée la volonté d'élaborer un pacte de gouvernance, et dès cette délibération, un calendrier est établi. Il y a une décision de l'élaboration du pacte de gouvernance, l'adoption dans un délai de 9 mois à compter du renouvellement général, et après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 2 mois après la transmission du projet de pacte. C'est-à-dire que aujourd'hui, nous allons engager notre territoire dans un pacte de gouvernance qui sera soumis aux conseils municipaux et présenté par l'Assemblée communautaire. Et la loi vient préciser que le conseil communautaire doit engager une délibération pour acter ça. Du coup, cette délibération vient préciser les orientations en matière de mutualisation de services entre les services de la communauté de communes et les communes membres. Ce pacte de gouvernance vient aussi fixer des objectifs à poursuivre en matière d'égale représentation des femmes et des hommes au sein des organes de gouvernance et des commissions de l'établissement public, les conditions dans lesquelles le président de la communauté de communes peut déléguer au maire d'une commune membre l'engagement de certaines dépenses d'entretien courant d'infrastructures ou de bâtiments communautaires, la création de conférences territoriales des maires selon des périmètres géographiques. Alors, en l'occurrence, ça concerne des territoires très élargis de communautés de communes, puisqu'aujourd'hui, je dirais que la conférence territoriale des maires, pour nous, c'est le bureau, puisque au bureau du conseil communautaire, l'ensemble des maires est représenté. La création de commissions spécialisées associant les maires, le pacte détermine alors leur organisation, leur fonctionnement et leur mission, les conditions dans lesquelles le PCI, par convention, confie la création ou la gestion de certains équipements ou de services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres. Et enfin, les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires. Mais comme je vous le disais, cette question est déjà présentée en réunion de bureau. Voilà. Donc nous venons décider d'élaborer ce pacte de gouvernance selon les modalités définies par la loi et que nous proposerons à l'Assemblée délibérante. Y a-t-il des questions? S'il n'y a pas de questions, je le soumets aux voix. Qui s'abstient? La Ligue du Sud, qui est contre? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. La question numéro 5, il s'agit de désigner un représentant de la communauté de communes au sein de l'association. Ce n'est pas un syndicat, contrairement à ce qui est marqué dans le titre. C'est bien une association loi 1901, l'association dite Association Grande Provence, qui a pour objectif de favoriser l'émergence de projets communs de développement entre les établissements publics qui la composent, de définir des axes de travail autour de la santé, de la culture, des transports, des modalités de développement économique ou autres. Aujourd'hui, nous avons initié cela avec des communautés de communes de notre territoire, de notre bassin, pour peser, je dirais, à l'initiative du président du Grand Avignon de l'époque, pour peser dans ce triangle entre Lyon, Montpellier et Marseille, et faire en sorte d'avoir des propositions qui soient intéressantes. C'est une association purement et simplement. Nous sommes membres fondateurs de cette association, et donc par conséquent, j'y suis membre d'office. Il convient de désigner un autre membre de droit représentant la communauté de communes. Et la majorité propose la candidature du premier vice-président, M. Benoît Sanchez. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets cette délibération aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 6. Il s'agit de désigner un délégué à la commission consultative paritaire du syndicat d'électrification vauclusien. Il me semble important de venir vous préciser qu'il ne s'agit pas de faire que la CCRLP adhère au syndicat d'électrification vauclusien, puisque les communes sont déjà présentes et adhèrent pour le compte de chacune des communes au sein du syndicat d'électrification vauclusien. Les communes y sont représentées. En revanche, ils ont créé une commission consultative paritaire entre ce qu'ils appellent les syndicats détenant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution d'énergie électrique et les établissements de coopération intercommunale, comme notre communauté de communes, à fiscalité propre. Et donc, il convient de désigner un représentant. Cela ne fait pas de nous qu'on siège au comité syndical du SEV, mais on siégera dans cette commission. Il est proposé au Conseil communautaire de désigner un représentant pour siéger à cette commission consultative, et il est proposé la candidature d'un élu de Mornas, M. François Lucas. Y a-t-il des questions ? Qui s'abstient ? La Ligue du Sud ? Oui, allez-y, M. Lucas, pardon.
Oui, c'était juste, comme je suis nouveau, François Lucas, c'est moi, je suis élu à Mornas, et l'énergie, c'est mon domaine d'expertise, c'est pour ça que je me suis porté volontaire pour cette mission. Merci.
Merci à vous. Donc, l'abstention de la Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 7. Il s'agit cette fois de désigner un représentant au sein de la commission consultative des déchets du schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, le fameux SRADET, qui a été approuvé en octobre 2019. Il y a des orientations, notamment relatives à la prévention et à la gestion des déchets vers une économie circulaire plurielle. Et puis, il y a aussi une planification régionale en matière de prévention et de gestion des déchets. C'est un sujet qui est éminemment important, la question des déchets, puisqu'il y a la question de l'exutoire et de toutes les dispositions du gouvernement concernant le fait qu'il y ait des dispositions, je dirais, départementales. Il est proposé au Conseil communautaire de procéder à la désignation d'un représentant de la communauté de communes au sein de la commission consultative. Et il est proposé, par cohérence, la vice-présidente à la question de la gestion des déchets, Madame Cathy Ricard, qui s'abstient. La Ligue du Sud, qui est contre. Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question numéro 8. Il s'agit de désigner les délégués au pays Notre Provence. Vu la délibération du Conseil communautaire de septembre 2015 relative à l'adhésion au pays de notre Provence, vu l'avis favorable du bureau communautaire, il convient que le Conseil communautaire procède à la désignation de 8 délégués titulaires et de 8 délégués suppléants représentant la communauté de communes au sein du pays. Il est proposé de procéder à la désignation des 8 délégués titulaires et des 8 délégués suppléants avec les candidatures pour la majorité. Madame Marie-Andrée Altier, Madame Laetitia Arnaud, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet, Monsieur Benoît Sanchez, Monsieur Hervé Flaugère, Monsieur Anthony Zilio, Monsieur Jean-Yves Maréchal comme titulaire, et pour les suppléants, Madame Bruna Romagnini, Monsieur Juan Garcia, Monsieur Jean-Marc Garinos, Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée, Monsieur Jean-Pierre Lambertin, Monsieur François Lucas et Monsieur Joël Racamier. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets cette délibération aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre ? Dossier adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Question 9. Il s'agit de désigner un délégué à la mission locale du Haut-Vaucluse. Par délibération de novembre 2006, le Conseil communautaire a décidé d'adhérer à la mission locale du Haut-Vaucluse en lieu et place des communes membres qui siégeaient alors. À la suite de l'installation du nouveau Conseil communautaire, l'Assemblée est invitée à délibérer pour désigner un représentant de la communauté de communes au sein de la mission locale du Haut-Vaucluse. Il est proposé au Conseil communautaire donc de me désigner en qualité de représentant de la communauté de communes au sein de cette mission locale. Y a-t-il des questions ? S'il n'y a pas de questions, je soumets aux voix. Qui s'abstient ? La Ligue du Sud, qui est contre, de s'y adopter à l'unanimité. Je vous remercie. Concernant désormais la désignation des représentants à la commission d'appel d'offres. À la suite de l'installation du nouveau Conseil communautaire, il convient de créer la commission d'appel d'offres et d'en désigner les délégués. Conformément à l'article 22 du Code des marchés publics, la commission d'appel d'offres, lorsqu'il s'agit d'un EPCI, est composée du président ou de son représentant et de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. La délibération du Conseil communautaire du 21 juillet 2020 fixe notamment les conditions de dépôt des listes, puisque nous avions déjà délibéré pour fixer ces conditions. Suite à cela, et avant le 19 septembre 2020, nous avons reçu deux listes que je vais vous lire. Il est proposé au Conseil communautaire de créer la commission d'appel d'offres, de procéder à l'élection d'une liste de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. La liste 1 est composée en candidats titulaires M. Christian Perron, M. Jean-Marc Garinos, Mme Laurence Desfonds-Fargeon, M. François Lucas, M. Juan Garcia. En candidat suppléant, M. Hervé Flaugère, Mme Laetitia Arnaud, Mme Cathy Ricard, M. Jean-Marie Blanc et M. Benoît Sanchez. Pour la liste 2, candidat titulaire, Mme Marie Calero et candidat suppléant, M. Claude Raoux. Je vais donc procéder à l'appel des électeurs qui viendront. Il faut désigner. Il faut désigner des assesseurs. Est-ce que des personnes sont candidates ? Si elles ne sont pas candidates, je propose M. Ozas et Mme Vicente pour le déroulé des opérations de vote, comme le précise la loi, avec des assesseurs. Et j'appelle les élus, à l'appel de leur nom, à venir déposer, passer dans l'isoloir, retrouver les bulletins qui sont avec. J'imagine les listes sont écrites dessus. Les listes sont déjà notées sur les bulletins, et de les déposer dans l'urne. Donc, Madame Marie-Andrée Altier, Madame Laetitia Arnaud, Monsieur Christian Ozas, Monsieur Pierre Avon et Monsieur Jean-Marie Blanc. Madame Marie-Andrée Altier, qui votera pour elle et pour le pouvoir de Madame Bruna Romanini. Puisque je vois qu'elle a un pouvoir. Madame Marie-Claude Bompard, Madame Sylvie Bonifaci, Madame Françoise Bouclet. Madame Marie Calero. Madame Laurence Desfonds-Fargeon. Monsieur Hervé Flaugère, qui votera pour lui et pour le pouvoir de Madame Anne-Marie Souveton. Monsieur Juan Garcia. Monsieur Jean-Louis Grappin. Monsieur Jean-Marc Garinos. Madame Myriam Gutierrez, Madame Florence Jouve-Lavolée. Monsieur Jean-Pierre Lambertin. Monsieur François Lucas. Monsieur Jean-Yves Maréchal. Monsieur Denis Mossi. Monsieur Christian Perron. Monsieur Joël Racamier. Monsieur Claude Raoux. Madame Cathy Ricard. Monsieur Benoît Sanchez. Madame Virginie Vicente. Madame Alti n'a pas voté pour Madame Romanini ? Elle repasse, d'accord. Alors j'ai dit qui ? Madame Vicente, elle y est allée. Donc Madame Marie-André Alti est pour Madame Bruna Romanini. Et donc j'imagine Monsieur Flaugère pour Anne-Marie Souveton. Mais lui a voté deux fois. Bon. Monsieur Bigli et moi-même. à voter. Le scrutin est clos.
Thank you.
résultat du nombre de sièges attribués dans le cadre de l'élection des membres de la commission d'appel d'offres. Le nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, aucun. Nombre de votants, 30. Nombre de suffrages déclarés nuls, aucun. Nombre de suffrages déclarés blancs, aucun. Nombre de suffrages exprimés, 30. Nombre de voix pour la liste 1, 27. Nombre de voix pour la liste 2, 3. Attribution des mandats au quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le suffrage exprimé divisé par le nombre de mandats. Ce qui fait 30 divisé par 5, ça fait 6. La liste 1 obtient, à l'attribution des mandats au quotient électoral, le nombre de voix divisé par le quotient électoral, ce qui fait 27 divisé par 6, ce qui fait 4, puisque ça fait 4,5, mais on retient 4. La liste 2 obtient 0 mandat. Il reste donc un mandat attribué à la plus forte moyenne. Au plus fort reste, pardon. Liste 1, 27 voix, moins le nombre de mandats fois le quotient électoral, ce qui fait 3. Et la liste numéro 2, nombre de voix 3, moins le nombre de mandats fois le quotient électoral, c'est-à-dire aucun fois le quotient électoral, ça fait 3. Donc la liste, il n'y a aucune liste qui obtient de mandats supplémentaires au plus fort reste. En cas d'égalité, puisque tout le monde a 3, en cas d'égalité des restes, la loi précise que le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En l'occurrence, la liste 1 obtient un mandat supplémentaire au plus fort reste, ce qui signifie que les 5 candidats à l'élection de la liste 1 sont élus à la commission d'appel d'offres, qu'il n'y a aucun candidat retenu sur la liste numéro 2. Allez-y, prenez la parole.
Est-ce que... Enfin, doit avoir une représentation à la proportionnelle au plus fort reste, justement. Pourquoi on n'a pas d'élus ?
Mais parce qu'il y a une égalité, en fait. Comme vous avez 3 élus sur 31, il y a eu 30 suffrages, il y a eu au plus fort reste 3. Ouais, on obtient 3 pour la liste 1, 3 pour la liste 2. Et la loi vient préciser qu'en cas d'égalité du nombre de restes, nombre de mandats au plus fort reste est égalitaire, ça revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages durant le vote. En l'occurrence, la liste 1 ayant obtenu le plus grand nombre de votes que la liste 2, la liste 1 prend le siège au plus fort reste. Voilà. Du coup, c'est qui fait ce résultat. M. Perron, M. Garinos, Mme Desfonds-Fargeon, M. Lucas, M. Garcia, titulaire, M. Flaugère, Mme Arnaud, Mme Ricard, M. Blanc et M. Sanchez, suppléants. La question numéro 11, il s'agit cette fois d'élire les représentants à la commission de délégation de service public et de procéder à l'élection d'une liste de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants. Dans les dispositions suivantes, 2 listes ont été reçues. Une liste 1, M. Perron, M. Garinos, Mme Desfonds-Fargeon, M. Lucas, M. Garcia. Suppléant, M. Flaugère, Mme Arnaud, Mme Ricard, M. Blanc et M. Sanchez. Liste 2, titulaire, Mme Calero. Suppléant, M. Raoux. Oui.
Est-ce que si tout le monde en était d'accord, on ne pourrait pas envisager d'avoir un vote à main levée, puisqu'on peut imaginer avoir le même résultat que celui qu'on vient d'avoir sur la question précédente?
Je l'aurais aimé, mais je préfère, au vu des articles du Code général des collectivités, parce que si on est tous d'accord dans cette salle, au tribunal administratif, de toute façon, on perdrait. Je préfère qu'on vote dans les dispositions du Code général des collectivités, au même titre que la commission d'appel d'offres, la commission de délégation de service public. Mais je vous remercie de votre proposition, qui aurait pu être accepté. J'appelle Madame Altier, Madame Arnaud, Monsieur Ozas, Monsieur Avon, Monsieur Blanc. Madame Calero, Madame Desfonds-Fargeon. Monsieur Flaugère, pour lui et pour Madame Souveton. Madame Altier, vous avez voté pour Madame Morvani. Monsieur Garcia, Monsieur Grappin, Monsieur Guérinos. Madame Gutiérrez. Madame Jouve-Lavolée. Monsieur Lambertin. Monsieur Lucas. Monsieur Maréchal. Monsieur Mossi. Monsieur Perron, Monsieur Racamier. Monsieur Raoux. Madame Ricard. Monsieur Sanchez. Madame Vicente, Monsieur Vigli et moi-même. Résultat du calcul du nombre de sièges à attribuer dans le cadre de l'élection des membres de la commission de délégation de services publics au scrutin proportionnel au plus fort reste. Nombre de conseillers présents à l'appel n'ayant pas pris part au vote, aucun. Nombre de votants enveloppe au bulletin déposé, 30. Nombre de suffrages déclarés nuls, aucun. Nombre de suffrages déclarés blancs, aucun. Nombre de suffrages exprimés, 30. Nombre de voix pour la liste 1, 27. Nombre de voix pour la liste 2, 3. Attribution des mandats au quotient électoral. Le quotient électoral, c'est le suffrage, les suffrages exprimés sur le nombre de mandats. En l'occurrence, 30 suffrages exprimés sur 5 mandats, ce qui fait un quotient électoral à 6. La liste 1 obtient à l'attribution des mandats le nombre de voix divisé par le quotient électoral, soit 27 divisé par 6, ce qui fait 4,5. On retient le plus petit, ce qui fait 4. Liste 2, nombre de voix divisé par le quotient électoral, ce qui fait 3 divisé par 6, ça fait 0,5. On retient le plus petit, ce qui fait 0. Liste 1 obtient 4 mandats, la liste 2, 0 mandat. Il reste un mandat à attribuer au plus fort reste. L'attribution des mandats au plus fort reste, pour la liste 1, il s'agit du nombre de voix 27 moins le produit du nombre de mandats obtenus, c'est-à-dire 4 sur l'attribution des mandats au quotient électoral, fois le quotient électoral, 6, 27 moins 24, ça fait 3. Liste 2, nombre de voix, c'est 3, moins le produit du nombre de voix obtenues au quotient électoral, fois le quotient électoral, c'est-à-dire 0 fois 6, 0, 3 moins 0, égale 3. En cas d'égalité des restes, le siège revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages, puisque les deux listes ont obtenu 3 au plus fort reste. La liste 1 prend un mandat de plus. En l'occurrence, les candidats titulaires élus sont M. Perron, M. Garinos, Mme Desfonds-Fargeon, M. Lucas et M. Garcia. Les candidats suppléants, M. Flaugère, Mme Arnaud, Mme Ricard, M. Blanc et M. Sanchez. Merci aux deux assesseurs, Christian et Virginie. La question suivante, il s'agit de l'adhésion à l'association départementale, le CAUE. Monsieur Sanchez, vous avez la parole.
Oui, merci, Président. Donc, ce rapport numéro 12, ça concerne effectivement l'adhésion au CAUE, donc, qui est l'association départementale de conseil d'architecture, d'urbanisme et d'environnement. Donc, après un avis favorable du bureau communautaire et dans le cadre de l'exercice des compétences de Rhône-Lès-Provence, il est proposé à cette Assemblée de renouveler son adhésion au CAUE de Vaucluse. Donc, pour rappel, le CAUE a pour mission de sensibiliser et d'informer dans le domaine de l'environnement, de former les maîtres d'ouvrage et les professionnels, ainsi que les administrations et les collectivités qui interviennent dans le domaine de la construction, et de conseiller les particuliers qui désirent construire en fournissant des informations et les orienter et les conseiller dans la qualité architecturale des constructions et pour une bonne insertion dans le site environnant urbain ou rural. Voilà, et de conseiller effectivement les collectivités.